Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte, un rendez-vous compte qui semble aujourd'hui atteint d'un mal chronique. Un mal chronique parce qu'il va être composé d'une série de chroniques, avec un S, bien dans l'air du temps, que nous proposent plusieurs des invités que nous avons reçus à ce micro ces dernières semaines ou ces derniers mois. Rendez-vous compte. Alors pour commencer ce menu, une chronique gourmande en forme de défi littéraire que nous propose Michèle Paret, ex-valdoisienne devenue habitante du Pradet dans le Var.
Voilà un petit texte sans prétention proposé dans un atelier d'écriture que j'encadre. Il s'agissait d'écrire un texte en utilisant le maximum de noms de gâteaux. Voici mon histoire gourmande. Oyez, oyez, braves gens! Cette histoire un peu tarte, de toute pièce montée, qui vous laissera baba. La belle et fine Amandine, coiffée de macarons, vêtue de crêpes et de mousseline, coulait des jours heureux dans un couvent de Pithiviers, un vrai palais de dames. Elle quittait rarement son boudoir, sauf pour se rendre à l'office dominical en l'église Saint-Honoré, en compagnie de son amie Charlotte, la boulotte, sous l'œil vigilant de sœur Madeleine. La religieuse parlait peu, mais, de temps en temps, en douce, avec son air de ne pas y toucher, elle lâchait un petit paix de nonne discret. Après la grand-messe, elles se rendaient ensemble au salon de thé tout proche et succombaient au doux péché de gourmandise. Elles y dégustaient chouquettes et tartelettes. C'est là qu'elle le rencontra, le beau financier, fin diplomate, fan d'opéra, séduisant malgré la petite brioche qui arrondissait légèrement sa silhouette. Il arrivait tout droit de Forêt-Noire, après un détour par la Bretagne, pour assister à un Paris-Brest époustouflant. En un éclair, elle fut séduite. Il l'entraîna dans un puits d'amour sans fond. Elle tomba sous le charme et, enceinte, la tuile. Il en resta comme deux ronds de flanc. Il répara sa faute. Ils se marièrent et eurent une ribambelle de petits fours et mignardises.
Je suis boulanger. Je suis fier de ce métier. Ok. Je suis boulanger. J'aime ce que je fais, je suis boulanger.
Je me couche tard et je me lève tôt, pas le choix pour le boulot. Le réveil est compliqué, à 5h de la matinée, t'attends la pause pour le café, façonner sans s'arrêter, enfourner sans se faire cramer.
Sans se faire cramer,
enfourner sans se faire cramer.
Après ce rap des apprentis boulangers en formation de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Centre Val-de-Loire, on va savourer, du coup, un petit festival à partir d'une expression que les ados, mais pas seulement, adorent, du coup, utiliser 10 fois par phrase. Louise et Juliette, deux lycéennes, nous le prouvent, du coup.
Donc maintenant, on est avec Louise de première 6. Elle va nous parler de son stage de 3e. Donc bonjour Louise. Donc où est-ce que tu as fait ton stage de 3e?
Je l'ai fait au siège de Ralph Lauren à Paris.
Et du coup, comme ton stage il était à Paris, tu y allais par quel moyen de transport?
J'y suis allée en train, donc je prenais 2 trains différents. Et c'était la première fois que je prenais les transports en commun seule aussi longtemps. Et du coup, j'avais à peu près 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir.
Et du coup, Louise, pourquoi as-tu voulu faire ton stage chez Ralph Lauren?
Parce que j'ai toujours voulu travailler dans le luxe et du coup Ralph Lauren c'était plutôt cohérent comme choix. Du coup, j'ai pu découvrir les différents services du siège, donc comme la finance, les attachés de presse.
Et du coup, c'était un stage plutôt actif, tu faisais des choses ou passive, tu regardais ce que les autres faisaient. Et du coup, ça a été quoi ton meilleur souvenir durant ce stage ?
C'est lorsque j'ai rencontré une area manager qui m'a du coup emmenée dans tous les stands Ralph Lauren de Paris, enfin des grands centres commerciaux de Paris, et qui m'a expliqué comment se faisait l'organisation de ces stands. Depuis que je suis toute petite, je regarde des films et des séries dans lesquelles ce milieu est vachement représenté. Et du coup, pour moi, c'était plutôt cohérent de faire mon stage dans cette entreprise et du coup dans la mode de luxe, parce que c'est là où j'ai toujours voulu travailler. Et du coup, j'ai pu observer plein de choses là-bas. Et ce que j'ai préféré, c'était le métier d'attaché de presse et le marketing. Du coup, je pense que je vais me diriger vers ça.
Du coup, Ambre, merci d'être là. On va parler du coup d'un retour que j'ai eu de vos collègues hier sur votre comportement. En gros, du coup, ce qui se dit...
Excusez-moi, vous pouvez juste arrêter de dire « du coup » ?
Comment ?
Vous avez beaucoup dit « du coup » depuis le début et c'est pas correct.
Du coup, pour...
Ah voilà, vous l'avez dit, vous voyez ?
Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit « du coup ».
J'ai pas dit « du coup ».
Si.
Et alors ?
C'est un tic de langage, en fait. C'est comme si vous répétiez plein de fois le même mot. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que vous faites. Et ça aide pas forcément pour se comprendre, c'est pas forcément utile.
Je suis pas sûr d'aimer la tournure que prend cette conversation.
Ne dites pas du coup. Voilà, c'est tout simple. C'est difficile, hein.
Oui. Je vais aller au bout de ma phrase. Du coup, vos collègues dans l'open space vous reprochent d'être trop pointilleuse sur la langue française et de les reprendre tout le temps.
Moi ?
Du coup, on répète.
Du coup, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique. Après la gourmandise littéraire de Michel Paré et le petit festival, du coup, de Louise et Juliette, et avant d'avoir un chat dans la gorge, on va écouter... Tiens, un invité surprise s'aventure dans le studio.
Miaou, c'est Moritz le chat. Je me présente, je suis un chat noir avec une tache blanche sur le poitrail, c'est important. Je suis un chat connecté, j'aime bien observer la vie des humains et je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Ceci dit, j'aime bien la nature aussi et les rencontres avec les autres espèces. C'est comme ça que je me suis fait un nouvel ami, un être qui s'appelle Fagus. On dialogue très souvent. Et puis j'aime bien écrire, mais parfois mes griffes s'accrochent au papier ou au clavier. Alors j'ai décidé de participer à un atelier d'écriture. Ça tombe bien, mon maître en anime 1. J'y assiste en secret, l'air de rien. Il trouve ça un peu bizarre, mais il me laisse dans mon coin.
Alors, atelier d'écriture, mais qui est donc ton maître ?
Alors mon maître, c'est Gérard Poètre de Saint-Leu-la-Forêt. Il recommence pour la 13e saison et ça va durer jusqu'au mois de mai.
Tu nous as pas dit ton prénom, cher chat ?
Ah, je m'appelle Moritz. J'ai un prénom binational.
Tu veux nous lire une chronique ? Tu veux nous dire ton point de vue sur le monde ? De vue de félin ?
Par exemple, les hommes viennent de découvrir que les animaux ont une personnalité. Il en aura fallu du temps. Évidemment, c'est difficile à admettre pour eux. Ils ont toujours tendance à hiérarchiser. Même entre eux, ça ne se passe pas très bien. Il y a toujours un groupe qui se croit supérieur aux autres. Nous, les chats, on n'est pas un modèle, mais nous admettons que les autres animaux ont une personnalité. Certes, depuis que nous sommes domestiqués, notre personnalité s'est affinée au contact de l'homme et nous avons su devenir leur préféré. N'en tirons pas un orgueil excessif. Par contre, les loups, par exemple, souffrent de leur réputation de prédateurs. Ils ont compris qu'il fallait changer leur image. Sur RTL, Radio Triomphe des loups, j'ai entendu que les loups d'Europe occidentale se rapprochent des villes et donc des hommes, car ils apprécient la compagnie humaine. Ils ne sont pas solitaires comme on croit, ils sont sociables, et même une étude récente a montré qu'ils savaient collaborer entre eux mieux que les chiens. J'ai toujours eu un doute sur les chiens. Là, ça se confirme. À la différence des loups, les corneilles sont agressives. Les facteurs canadiens en ont fait les frais. Près de Vancouver, ils ont été tellement souvent attaqués pendant leur tournée qu'ils refusent maintenant de porter le courrier dans certains quartiers. Alors, soit leur costume déplaît aux corneilles, peut-être ils ressemblent trop à leur plumage, soit ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Une récidiviste nommée Canuck avait même dérobé un couteau. Dès que je vois un oiseau noir, je préfère rentrer. Et plus sociable encore que le loup, les singes bonobos sont altruistes. Par exemple, ils aident leurs congénères lorsqu'ils ne parviennent pas à attendre de la nourriture. Il paraît que seuls les hommes étaient capables de ce comportement. Je voudrais pas faire de mauvais esprit, nous on n'est pas très partageurs, mais je me demande si, du fait de l'évolution de nos sociétés, c'est pas le bonobo qui va devenir le seul altruiste de la planète.
Voilà. Loup, corneille, bonobo et chat, bien entendu, sont peut-être l'avenir de l'homme, qui sait. Merci Gérard. Gérard Pouettre, auteur d'un recueil de slam intitulé Au gré des jours, paru aux éditions Culturecom, auteur également de Entre raison et sentiment, mais aussi des chroniques de Maurice, Le monde vu par mon chat, deux ouvrages parus aux éditions Dourot. Gérard est encore l'auteur d'un recueil intitulé Entre raison et sentiment, où Maurice, son chat, et le être avec lequel il s'est lié d'amitié établissent un dialogue en toute complicité entre l'animal et le végétal. Un recueil paru également aux éditions Dourot, illustré par Marine Gauvin, que nous avons reçue à ce micro il y a quelques semaines et qui nous proposera à son tour une nouvelle chronique dans quelques minutes. En attendant, apprendre bien sûr dans le sens du poil, cette chanson d'Yves Montand intitulée « Le chat de la voisine » que je dédie tout spécialement, bien sûr, à Maurice, notre chat chroniqueur.
Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un bel édredon don don don. Le chat de la voisine qui se met plein les babines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Je ne dessinerai pas l'homme et son agonie, l'enfant des premiers pas qui gèle dans son nid. Je ne parlerai pas du soldat qui a peur d'échanger une jambe contre une croix d'honneur, du vieillard rejeté aux poubelles de la faim. Je n'en parlerai pas, mieux vaut ce petit refrain. Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un bel édredon don don. Le chat de la voisine qui se met plein les babines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte spécial chronique. Après la gourmandise littéraire de Michel Paré, le petit festival lexical du coup de Louise et Juliette, le monde vu par le chat Moritz de notre ami Gérard Pouettre, voici L'œil du psy, première chronique de notre thérapeute attitrée, Hélène Souhaud, qui réfléchit et s'attache, si je puis dire, au lien familial. Rendez-vous compte. Bonjour Hélène.
Bonjour Didier.
Alors Hélène, ça va être aujourd'hui une grande première pour toi, une grande première pour nous. La toute première chronique d'Hélène Souhaud, psychothérapeute et psychanalyste à Saint-Leu-la-Forêt, bien sûr. Alors Hélène, ravie de t'accueillir sur IDFM.
Ben, ravie d'être ici sur Radio Anguin pour cette chronique mensuelle, l'œil du psy.
L'homme du psy aussi.
Voilà. Le lapsus.
Voilà, c'est bien. D'ailleurs, Hélène, on t'a déjà croisé, si je puis dire, sur cette antenne, puisque tu as déjà eu droit, l'honneur, d'avoir deux émissions précédentes.
C'était un grand honneur.
Une consacrée à ton activité de biographe et l'autre à ton activité de psychothérapeute, psychanalyste.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, tu vas nous, en raison de l'actualité, hein, des fêtes de Noël, c'est un moment où on est supposé célébrer l'unité des familles, mais en même temps, ça questionne beaucoup ce lien familial.
Oui, la famille, c'est le terreau de toute thérapie. On l'aime, on la hait, mais pour avoir la chance de la haïr, il faut en avoir une. L'harmonie familiale est un très joli fantasme dont on rêve tous. La réalité, c'est que nous avons tous nos névroses, donc toutes les familles ont leurs névroses. Et l'entente continue et béate est bien rare. Mais finalement, s'engueuler un bon coup, ça peut être sain et resserrer les liens.
Bah tiens, le lien, ça c'est un mot qui a plusieurs sens d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que le mot lien contient un sens très négatif de ficelle, nœud, corde qui saucissonne, qui empêche de bouger, de se déplacer à sa guise. Mais c'est aussi un mot qui a un sens très positif, comme la proximité affective, l'amour, le socle de sécurité.
Voilà, le lien ligote et le lien nourrit à la fois, c'est ça. Mais alors, tu vas nous parler de quel lien, le lien avec qui? Tous les liens familiaux sont-ils équivalents?
Alors, dans la famille, il y a des liens choisis et des liens subis. Le lien amoureux est choisi, mais il est très fragile. Les statistiques nous rappellent qu'un couple sur trois, voire un couple sur deux, se sépare. C'est terrible, mais c'est admis, on fait avec. Le lien de sang subi entre frères et sœurs, et surtout entre parents et enfants, est revêtu d'un caractère presque sacré. C'est de la remise en question du lien parent-enfant que j'aimerais parler aujourd'hui. Boris Cyrulnik a écrit le livre « Sous le signe du lien » où il étudie comment le lien parent-enfant se crée chez l'humain, comme chez les autres animaux, depuis la gestation.
Alors finalement, est-ce que le lien familial, c'est simplement une question biologique ? Pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout.
Oui et non. À chaque fois qu'on tente de séparer nature et culture, on tombe dans l'impasse. Tout est naturel, tout est culturel, tout est inné, tout est acquis. Pour la survie de l'espèce, bien sûr que les parents mettent tout en œuvre pour mettre leurs petits à l'abri, comme leur instinct le leur dicte. Mais toutes sortes d'entraves peuvent apparaître, qui fragilisent et qui parfois même brisent le lien. Les événements de la vie, la violence, l'addiction, l'abus, l'inceste, le trouble psychiatrique, la guerre, ou même des événements d'autres vies avant la nôtre, car le transgénérationnel joue à fond sur la capacité à créer des liens solides ou non.
Voilà, ça c'est vraiment un problème actuel, hein, ces ruptures entre générations. Autrefois, on dit qu'on s'occupait soi-même des anciens, alors qu'aujourd'hui, on les met plutôt en EHPAD.
Je pense que les tensions familiales ne sont pas d'aujourd'hui. Hein. Elles sont vieilles comme le monde. On se souvient de l'abominable Folcoche, la mère maltraitante dans Vipère au poing, avec laquelle son fils, le narrateur, rompra dès qu'il pourra. Chez Molière, à chaque fois qu'un père tyrannique se met en colère, il menace de déshériter ses enfants, c'est-à-dire de couper le lien.
Ouais, ça coince depuis longtemps, c'est sûr. Bon, enfin, c'est si catastrophique que ça, le lien familial, Hélène.
Alors, chaque parent fait de son mieux dans la situation où il est. Ça, c'est un impondérable, quelque chose que je rappelle souvent à mes patients. Même, on fait tous des erreurs, mais on fait toujours de son mieux. Le type de relation parent-enfant qui s'installe dans les premières années de l'enfant aura de l'influence sur sa capacité ensuite à établir des liens une fois adulte.
Donc il y a donc des cas où le lien parent-enfant se rompt.
Oui, malheureusement, il y a des ruptures de liens subis, des sales coups du destin, d'un décès prématuré, un suicide, un abandon, coupent parfois le lien brusquement. C'est terrible et ça a aussi des répercussions sur la capacité à réinvestir des liens avec d'autres personnes, à faire confiance. Paradoxalement, la peur de l'abandon mène souvent à des ruptures de liens. On a tellement peur d'être abandonné qu'on fait en sorte de rompre soi-même le lien inconsciemment. Certains divorces, avec des parents qui ne s'entendent pas du tout, qui sont très éloignés géographiquement, mènent aussi à des ruptures de lien. Le placement des enfants par les services sociaux peut parfois briser les liens. Mais il y a aussi des ruptures de liens plus ou moins choisies. Les liens qui font mal baignent souvent dans le non-dit. Les liens douloureux peuvent se rompre ou au contraire devenir envahissants sans qu'on ait jamais formulé ce qui était en train de se passer. Quand le parent ou l'enfant va très mal psychologiquement, il arrive qu'il choisisse de rompre le lien. Le cas le plus fréquent, c'est celui d'un enfant qui cesse de voir un parent qu'il considère comme toxique. Ça peut être une façon de le punir ou juste de se mettre à l'abri de la maltraitance. Et parfois, c'est effectivement la bonne solution. Il existe aussi des cas de parents considérant leur enfant comme toxique. Ils invoquent généralement la responsabilité de l'autre parent et finissent par rompre le lien pour cesser de souffrir d'un enfant tyrannique devenu adulte. C'est parfois la solution ultime quand on a épuisé toutes les autres. Ces situations sont vraiment très tristes à mon avis, mais la rupture de lien peut être indispensable pour retrouver la paix.
Ouais, sauf que ce genre de situation est quand même perçue difficilement par les proches.
Les ruptures de liens sont douloureuses et compliquées en elles-mêmes et le regard des autres est une sorte de double peine. Vu qu'on est tous les enfants de quelqu'un, tout le monde se sent autorisé à donner son avis en cas de rupture de lien. Et ces avis ne sont pas toujours ajustés et utiles. Le poids du jugement d'autrui s'ajoute à la douleur initiale.
Bon Hélène, rassure-nous quand même, il y a aussi des cas où on surmonte les tensions sans briser le lien.
Oui. Bien sûr, énormément de cas. Il est très, très, très fréquent que le lien soit chahuté, questionné, mais pas rompu. Chaque culture familiale est différente. Quand les enfants quittent la maison, se parler tous les jours, une fois par semaine, une fois par an, tout existe, tout est possible. L'important est de s'autoriser à réfléchir à son besoin. Une fois qu'on a osé se dire à soi-même quelle est la bonne dose de lien qui nous correspond, qui nous fait du bien, il n'y a plus qu'à négocier avec l'autre, car on est deux dans le lien. C'est celui qui veut modifier le lien existant parents ou enfants qui prend l'initiative de la négociation.
Par exemple ?
Alors je peux citer des phrases entendues dans mon cabinet. Un parent peut dire « j'aimerais bien avoir de tes nouvelles une fois par semaine si l'enfant n'appelle pas ou peu ». Un enfant peut dire « limite tes textos à un par jour, tu m'envahis ». La question de qui prend l'initiative de l'échange peut aussi être un enjeu de pouvoir. Certains parents considèrent que l'appel régulier émanant de leur enfant fait partie des devoirs filiaux. et refuse absolument de prendre l'initiative de cet appel, comme si c'était s'abaisser devant leur enfant. Certains appels, d'ailleurs, n'ont pas d'autre objet que de reprocher à l'autre l'absence d'appel ou ces trop rares appels. Questionner, formuler consciemment quelle nature et quelle intensité de lien on souhaite établir est déjà un signe de bonne santé relationnelle. C'est difficile de formuler des choses pareilles. Interroger le lien, surtout parent-enfant, c'est compliqué. Car instinctivement, tout le monde dit « Moi, tout va bien, mon lien avec mes parents, il est normal », alors qu'il n'y a aucune norme en la matière.
Voilà, alors comment on peut prendre soin d'un lien qui se fragilise autant? De quelle aide peut-on avoir besoin? J'ai une petite idée.
Évidemment, s'adresser à un thérapeute peut aider. Mais comme pour les thérapies conjugales, il n'y a pas de garantie de sauver la relation. Si on s'implique dans la thérapie, on comprendra mieux l'histoire du lien parent-enfant, ses points de crispation, ses non-dits, les besoins de chacun. Au cœur des thérapies, un grand enjeu est de sortir du manichéisme, de quitter la pensée binaire, noir, blanc, réussite, échec, bon, mauvais, pour explorer les nuances de gris au milieu. Dans le cas de la relation parent-enfant compliquée, il s'agit d'explorer les moyens termes. Tenir complètement le lien, c'est parfois s'épuiser moralement et financièrement dans une relation douloureuse. Lâcher complètement le lien questionne l'identité, concerne parfois plus de deux personnes. Il peut y avoir des petits-enfants qui subissent la rupture de lien et n'ont pas la possibilité de connaître leurs grands-parents. Les conséquences d'une rupture totale sont lourdes. Vous l'aurez compris, dans la mesure du possible, j'invite à trouver des solutions sur mesure dans la dentelle. Je pense qu'il vaut mieux éviter de tailler les familles à grands coups de hache. Se voir moins souvent, mais avoir des moments de bonne qualité, oser formuler un besoin de lien distant n'est pas simple, mais peut être salvateur.
Bien, bah écoute, Hélène, merci pour cet oxymore, hein, du lien distant. Voilà, on se retrouve le mois prochain. En attendant, bah, j'incite les auditeurs à consulter tous les livres des éditions qui s'appellent « Les liens qui libèrent ». Bon, bah, Hélène, merci beaucoup. On peut te retrouver sur Internet ou à ton cabinet à Saint-Leu-la-Forêt. Hélène Souhaut, S-O-U-H-A-U-T.
Bah écoute, je suis ravie de voir que notre lien se consolide.
Merci Hélène, à bientôt.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine.
Alors aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir de nouveau au micro de Rendez-vous Compte, Marine Gauvin, illustratrice freelance, qui a été notre invitée le 5 décembre, où elle nous a présenté l'origine de sa passion pour le dessin, la nature, les voyages et la photographie. Marine est aussi militante de la cause animale, en particulier de ces animaux que l'on qualifie de « sauvages », avec beaucoup de guillemets, alors qu'ils sont tout simplement « libres ». Et Marine, c'est l'un de ces animaux libres qui va être l'objet de ta première chronique, chronique régulière, que tu as bien accepté de nous proposer sur IDFM. Rendez-vous compte.
Oui, alors la création tient à beaucoup de choses, à de multiples facteurs qui ne sont jamais les mêmes et sont aussi fluctuants et mouvants que la vie d'artiste, mais j'ai envie de dire que la vie tout court. Alors que certaines de mes illustrations sont le fruit d'un pur hasard, sans réflexion aucune, la création de ma série des animaux réalisés à la plume est née d'une manière très réfléchie. Étudiante déjà, je souhaitais relier la pratique de l'illustration à l'écologie. Raconter, à travers le dessin, notre rapport au monde, aux autres, sous leur forme animale, végétale, minérale. Après une série sur les oiseaux, j'ai souhaité dresser le portrait de trois animaux clivants au sein de la société française, que sont le loup, le renard et l'ours. Mal aimés, mal considérés et mal compris, il y en a toujours qui vont vouloir les éradiquer à tout prix, alors que, de 1, ils n'ont rien demandé, de 2, leur impact écologique positif est fort, et les éliminer jusqu'au dernier nous apporterait plus de problèmes qu'autre chose.
Marine, auquel de ces trois animaux clivants vas-tu consacrer cette première chronique ?
Eh bien, c'est par le loup que je vais le plus simplement commencer. L'espèce emblématique de l'accrochage systématique, politique, éleveur, grand public, dont l'histoire avec l'humain est houleuse et épineuse. Depuis petite, en effet, le loup m'a toujours fascinée. Je ne saurais pas très bien dire pourquoi. Mais il est indéniable que le loup a toujours provoqué chez moi une attraction particulière. Est-ce l'esprit de la meute qui me parle tant ? Que notre histoire est liée au loup dans ce mélange inextricable d'amour et de haine depuis si longtemps ? Je ne sais pas. Moi-même, j'ai grandi avec cette dualité, marquée profondément petite par la légende de la bête du Gévaudan qui m'a provoqué de nombreux cauchemars et crises d'angoisse, et la découverte de Princesse Mononoké au cinéma à 9 ans, une claque artistique monumentale, et ma rencontre avec la déesse Louve, mère adoptive de Mononoké, dont je suis éperdument tombée amoureuse. Tant et si bien qu'elle est devenue mon animal totem, mon animal protecteur. Bref, le loup et moi, c'est une grande histoire d'amour, malgré les terreurs que notre société française m'a inculquées.
Tu as donc dessiné le portrait d'un loup, un loup majestueux, au beau regard interrogateur, mais forcément pour toi, ce n'était pas un dessin comme un autre.
Tout à fait. Quand je l'ai dessiné, à coups de petits traits à la plume, plongé dans une sorte de méditation propre à ce genre d'exercice, ma volonté première était de le sublimer dans un noir et blanc sobre, sans fioriture, le magnifier dans toute sa simplicité, le magnifier pour ce qu'il est simplement, le loup, un loup, la meute. Mais, comme je l'ai précédemment évoqué, la création parfois fait des embardées et nous emmène sur des chemins de traverse dont ne nous soupçonnions même pas l'existence. Il est important de s'écouter, écouter son corps, ce qu'il a à nous dire. Comment je me sens ? Quelles sont les émotions qui me traversent ? Que me disent mes tripes ?
Et il se trouve que les émotions qui te traversaient à ce moment-là étaient exacerbées par un environnement extérieur particulièrement anxiogène.
Tout à fait. Ce jour-là, dans cette année terrible que fut 2021, alors que de mon bureau à Mayence où je vivais pour 2 mois, je voyais un soleil impitoyable cramer les plantes et les arbres, alors que tout autour de nous, en France et ailleurs en Allemagne, des pluies diluviennes détruisaient des paysages entiers et des habitations, j'en ai eu marre de la morosité ambiante. Le monde était trop moche. Trop vilain. Quand je jetais un coup d'œil à mon loup, je ne voyais que tristesse et résolution. J'avais envie de panache, de flamboyance, de beau. J'avais envie de bataille, j'avais envie d'entendre la meute hurler à la lune et courir les montagnes et les forêts pour se répandre dans le monde. J'avais envie de couleurs, pour effacer la grisaille, effacer les masques de Covid qui couvraient nos visages. Alors j'ai pris mon pinceau, j'ai pris mon pot d'encre jaune, et de loup noir, le loup est devenu jaune.
Pourquoi là précisément la couleur jaune ?
Alors, c'est totalement le fruit d'un hasard. À la plage, j'avais choisi jaune. Parce que c'était lumineux, parce que c'était la couleur du soleil, parce que c'était quelque chose de joyeux, de chaud, de chaleureux, j'avais besoin de ça. Et en fait, en discutant avec toi de cette chronique, je t'ai parlé du parc du Yellowstone. Et là, le hasard a fait que dans ce parc, Yellowstone, il y a le terme jaune, et donc qui renvoie aussi à ce loup qui a été réintroduit dans le parc du Yellowstone et qui a changé le cours des rivières.
Voilà, un loup qui est une espèce dite clé de voûte, pourquoi ?
Tout à fait. Si on le supprime, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré. En France, la réintroduction du loup permettrait aux forêts de se régénérer, en évitant que cerfs, biches, chevreuils ne viennent brouter inlassablement les pousses des jeunes arbres. Avec le loup sur le territoire, les cervidés ne restent pas longtemps au même endroit et s'en vont voir ailleurs, d'où ils seront à nouveau chassés par le loup, dans le cas où la réintroduction est réussie, évitant ainsi qu'ils ne piétinent et amenuisent un territoire. Dans le cas des éleveurs, on hurle toujours à cor et à cri « C'est la faute au loup !» Or, le loup représente 0,65% de morts du cheptel bovin français. Les maladies tuent, elles, beaucoup plus. En Italie, les éleveurs vivant dans les Abruzzes où les loups se portent bien sont conscients qu'ils vivent sur le territoire du loup et non l'inverse. Chaque éleveur a une dizaine de patous à son actif pour garder le troupeau et ça marche. Le loup, c'est plutôt une histoire politique. Mais c'est surtout éviter de se poser les bonnes questions. Car, entre le loup et l'homme, qui provoque le plus de dégâts sur cette planète ?
Mais entre le loup et l'homme, qui provoque le plus de dégâts sur cette planète ? Je crois que la réponse est totalement évidente. Merci Marine pour cette première chronique. Mais une chronique qui fait d'ailleurs écho à un roman récent sélectionné pour le prix Folio des lycéens 2025.
La Grande Ours de Maëlys Adémar qui raconte le conflit moral de Zita, fille d'une famille d'éleveurs et de moutons dans les Pyrénées, confrontée aux incursions parfois sanglantes pour les troupeaux d'ours réintroduits dans la montagne. Conflit entre citadins partisans de l'ours et éleveurs qui défendent leurs propres bêtes. Zita devra choisir son camp.
Alors, hasard ou transmission de pensée, je ne sais pas, mais tu venais juste d'emprunter ce roman à la médiathèque quand tu as pris connaissance du mail où je te le recommandais. Bon, merci Marine et à bientôt pour ta prochaine chronique.
À bientôt.
Ainsi se termine notre premier rendez-vous compte spécial chronique, à retrouver en podcast, bien sûr, sur le site de la radio, avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Gérard, Hélène et Marine. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte sur IDFM, évidemment.